BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechy.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et vous serez gâtés cette semaine parce que vous en aurez trois d'un coup. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos critiques attitrés Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis nos chroniqueurs Bedaouda Abdedaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, dans toutes les langues. Et puis ce sera Jean-Marc Daniel aujourd'hui qui fera notre bibliothécaire. N'oubliez pas tous nos réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour avoir le programme complet des émissions, la référence des livres, des vidéos, des rediffusions, etc., etc. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. Au programme de cette librairie de l'écho, l'Europe, nous voterons le 9 juin. Mais savons-nous encore pourquoi, dans quel but, avec quelles ambitions? Alors nous allons d'abord interroger la jeunesse, ce qu'a fait Frédéric Farah. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales, des prépas jusque dans les quartiers les plus difficiles. Et vous publiez Nos Frexit aux éditions Fayard. Et puis nous essaierons aussi de comprendre pourquoi l'Europe donne toujours l'impression de faire trop peu, trop tard, trop compliqué, les réformes qu'il faudrait envisager pour que l'Europe tienne enfin toutes ses promesses de sécurité et de prospérité. Et ça, c'est ce que nous verrons avec nos deux autres invités. Éric Monnet, depuis Berlin. Bonjour Éric Monnet.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EHESS et vous co-dirigez avec Antoine Vauchez un ouvrage collectif qui s'appelle « L'Europe du marché à la puissance publique » aux éditions PUF. Et puis Lim Angnok est avec nous aussi. Lim, vous êtes maître de conférence à Paris 1 et vous publiez « L'Europe, ennemi de la République ?» point d'interrogation également au PUF. Bah, on commence avec vous, Frédéric Farah. Vous avez interrogé donc des élèves dans toutes sortes d'établissements de tous niveaux, grosso modo des lycées, des quartiers difficiles, jusqu'aux classes prépa, des grandes écoles, sur leur vision de l'Europe. Et alors vous dites, bon, vous aviez des préjugés, vous attendiez à certains types de réponses, plutôt pro-européens parmi l'élite, plutôt anti-européens, et vous dites en fait, pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça.
Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis arrivé dans ce livre en étant convaincu avec une lecture très, on va dire, de classe, quoi, en disant, ben voilà, comme je vais interroger des lycéens de Bagnolet, pas toujours très favorisés, ben ils vont avoir un discours anti-européen. Et puis, comme j'enseigne à la fois à Paris 1 et dans le 5e et le 6e, dans des prépas, va dire...
Et dans les prépas HEC, ils vont être pour l'Europe.
Ils vont être pour l'Europe, voilà. Et l'affaire est réglée et mon livre est plié. Or, ce que j'ai vu, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, cette jeunesse m'est parue moins fragmentée. J'ai vu pas de discours, mais partout j'ai regardé, anti-européen net. J'ai pas vu non plus un enthousiasme fou. J'ai envie de dire, pour ces différents... Il y a des nuances à apporter entre ces trois groupes, mais j'ai vu que l'Europe, ça leur parle à tous les trois, quand un, ça donne du concret, c'est-à-dire quand c'est sensible, pratique, c'est-à-dire on peut voyager, on a la même monnaie, on peut s'imaginer dans un autre avenir. Et ceux qui étaient de Bagnolet, ce qui était du 93 et dans d'autres endroits, évidemment, pour eux, l'Europe doit être un espace aussi possible de projection, d'avenir. Mais j'ai pas vu des frexiteurs déchaînés et j'ai pas vu non plus des Européens fous de joie en disant que l'Europe, c'est génial.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque génération, il y a une grande attente vis-à-vis de l'Europe. Il y a eu la génération de ceux qui ont fait la paix, et ça, c'était quand même une belle réussite. Après, il y a eu un peu notre génération, qui a été la génération qui a fait l'euro, qui s'est battue pour ou contre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle attend, cette jeunesse de l'Europe?
Alors, ce qu'elle attend, tout d'abord, l'Europe est un fait acquis. C'est-à-dire qu'ils vivent avec. C'est-à-dire que, par exemple, l'euro, quand j'ai discuté avec eux, ils ont grandi. Ce sont, comme je dis, sont des bébés euros. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec l'euro. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais eu à se représenter le passage d'une monnaie à une autre. Donc, pour eux, cette monnaie, sans vouloir la questionner plus que ça, ils vivent avec. C'est avec elle qu'ils ont fabriqué un système de représentation. Ce qu'ils veulent de l'Europe, en tout cas, moi, dans les discussions que j'ai eues avec eux, c'est quelque chose de pratique, c'est de professionnel.
Oui, mais alors, il y a quelque chose qui transparaît dans votre livre, c'est que on a l'impression que derrière la promesse de l'Europe, il y a une promesse de protection.
Oui.
Et on sent que cette promesse, pour eux, elle est trahie un peu,
bien
quelque
sûr.
Part.
Bien sûr, parce qu'ils ont l'impression qu'en fait, les politiques qui sont faites ne sont pas faites pour la jeunesse, ils ont l'impression qu'on n'en fait pas assez pour le climat, ils n'ont pas l'impression qu'effectivement, l'Europe les protège suffisamment. Ce qu'ils veulent, c'est que l'Europe leur donne un horizon professionnel. J'ai pas vu une jeunesse très politisée. J'ai pas vu des élèves, que ce soit du 93 ou d'ailleurs, qui brandissent des gros concepts. Libéralisme, socialisme, des choses comme ça. C'est pas dans leur...
C'est une vision très utilitariste.
Oui, très utilitariste, très pratique. Bon, qu'est-ce que ça peut m'apporter concrètement? Je peux voyager, je peux avoir une opportunité professionnelle, mais... Est-ce que j'ai entendu chez eux, sur tous ces jeunes que j'ai rencontrés, la paix, l'envie de créer une grande puissance ou autre? Parfois, certains ont pu le dire, mais c'était de manière très dispersée et pas majoritaire.
Est-ce qu'il y a un sentiment d'appartenance européen?
En tout cas, pour ceux qui sont, on va dire, issus plus de catégories populaires, eh ben, ce que j'ai vu là, je ne pensais pas le voir, il y a un attachement plus net pour la France que pour l'Europe, et... Où il y a une, on va dire, un partage un peu plus net, c'est plus du côté évidemment des classes préparatoires ou autres, mais le sentiment d'appartenance net à l'Europe qui dominerait le sentiment national, je l'ai vu nulle part.
Mais pourquoi il n'y a pas de... On sent aussi qu'il n'y a pas vraiment de cause européenne, d'enthousiasme
non.
européen. Alors vous l'avez dit, bon, ils ont une vision utilitariste, mais est-ce que c'est pas aussi parce que finalement l'Europe, elle souffre beaucoup de son abstraction?
C'est hyper abstrait parce que, et on le voit quand je leur ai posé des questions sur les institutions européennes.
Ouais.
Je pense que c'est assez représentatif même du reste de la population, même des gens qui auraient peut-être 20, 30 ou 40 ans de plus qu'eux. C'est-à-dire, c'est très difficile à comprendre. Ils savent pas très bien qui fait quoi, comment on le fait. Les institutions, c'est assez confus dans leur tête. Et l'Europe apparaît comme quelque chose de très abstrait. C'est pour ça que dans le livre, je voulais insister sur ce contraste. Quand les politiques parlent de l'Europe, ils vont parler de culture, de choses très générales, mais c'est pas du tout signifiant pour cette jeunesse, parce que les références, quand M. Macron fait des discours à la Sorbonne ou ailleurs, il convoque des auteurs, des musiciens et tout. Tout ça, c'est très abstrait pour la jeunesse. Bon, je dis pas qu'ils s'y intéressent pas, mais ça leur dit pas grand chose.
Et d'ailleurs, l'institution qu'ils connaissent le mieux, dont ils comprennent le mieux le rôle, c'est la Banque Centrale Européenne.
C'est la Banque Centrale Européenne. Et ben, moi, ça m'étonne pas. Pour plusieurs raisons. Alors, peut-être parce que comme je fais bien le prof d'éco, j'ai bien rempli ma mission et que ça, ils l'ont entendu. Non, tout simplement, de manière plus sérieuse, c'est parce que dans le peu qui s'intéresse à l'actualité, dans ce qu'ils observent, c'est la chose qui revient le plus souvent. Et comme il y a la question de l'inflation, ils en ont entendu parler. Je pense qu'il n'y avait pas eu cet épisode inflationniste qui avait ramené la Banque Centrale au devant de l'actualité. Je pense que la Banque Centrale aurait connu probablement le même sort que les autres institutions, c'est-à-dire le flou. Parce que quand même, on est ici, on parle d'économie ensemble, s'il y a bien quelque chose pas simple à comprendre, c'est bien les outils monétaires, ouais. Leur usage, leur emploi, etc. Mais en tout cas, ils comprennent que c'est important. Alors, et après, ils vont pas rentrer dans les techniques open market ou je sais pas quoi, bien sûr, hein, on n'en est pas là. Mais ils comprennent que c'est clé.
Éric Monnet, vous entendez un peu ce qu'on peut retenir du livre de Frédéric Farah. Est-ce que ce sentiment envers une Europe plutôt sans passion, une Europe qui a tendance un petit peu à s'endormir, à s'encrouter, qui est pas vraiment faite pour les jeunes, est-ce que ce sentiment, vous le comprenez?
Oui, c'est vraiment très intéressant la manière dont c'était décrit et aussi la référence qui était faite à l'Europe de la paix. Je pense que là, il y a évidemment un décalage entre générations. C'était pour la génération qui était là dans les années 50-60. Évidemment que l'Europe, c'était la reconstruction après la guerre et le symbole de la paix était très fort. On parlait quand même de faire une alliance politique avec des pays avec lesquels on était en guerre 5 ou 10 ans auparavant. Et évidemment, pour les générations qui sont venues ensuite, y compris la mienne d'ailleurs, plutôt dans les années 80, l'Europe, bon, il y avait encore cette perspective de la paix, mais très vite, ça a signifié voilà, les accords de Maastricht, le libre-échange et tout ça, ce qui est devenu très technique, c'est vrai, on le dit quoi. Donc évidemment qu'il y a un peu ce rapport, vous disiez, très individualiste à l'Europe, mais en même temps, c'est vrai que à part quelques exceptions, genre le programme Erasmus ou des choses comme ça, l'idée c'était de construire un espace de libre-échange, donc forcément, quoi, ça appelait une sorte de rapport individualiste à l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que là, peut-être qu'on voit un basculement de ce qui s'est passé depuis quelques années, avec le plan de relance européen, avec effectivement, Frédéric Farah le disait aussi, l'inflation qui refait la guerre en Ukraine, en fait, qui font voir quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en Europe, qu'il y a des choses qui se passent à un échelon européen qui ne se passent pas en France. Et c'est vrai que là, c'est pas étonnant que la Banque Centrale Européenne, pour ça, apparaisse qu'aujourd'hui, ce qui existe, ce qui est le plus visible, à la fois par rapport à l'euro, à la fois ses réactions, alors l'inflation, etc.
Alors, Éric Moimet, très clairement, après finalement la création du marché unique, il y a eu une Europe qui a été vraiment une Europe très libérale. C'est l'Europe du grand marché. C'est l'Europe qui veut abaisser toutes les barrières à la concurrence. C'est l'Europe qui ouvre sur le monde et sur les grands marchés internationaux. Est-ce qu'on paye aujourd'hui un excès de libéralisme à travers ce qui a été fait, par exemple, et peut-être mal fait, sur la dérégulation de tout un tas de marchés, je pense au marché de l'énergie, sur une Europe un peu naïve, finalement, dans son ouverture, qui a pâti de la concurrence de la Chine, des États-Unis. Est-ce qu'on paye ça, quand même, aujourd'hui ?
Oui, parce que ce que vous dites, c'est effectivement l'Europe s'est construite dans les années 90, elle s'est construite avec cette idée vraiment de marché commun et au centre de tout. Pour deux raisons. La première raison, c'était l'idéologie du moment, ce qu'on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'au niveau européen. Vous avez dans tous les pays européens, même ailleurs aux États-Unis, les années 80-90, cette idée qu'en fait, c'est l'ouverture des marchés qui va un peu résoudre tous les problèmes économiques. Donc aujourd'hui, et c'est pas que en Europe, vous voyez ce que fait Biden aux États-Unis, cette idée qu'en fait c'est le marché qui va créer, on va dire, la communauté politique, elle est beaucoup moins forte que ce qu'elle a été auparavant. Et la deuxième raison pour laquelle l'Europe s'est beaucoup construite autour du marché il y a plusieurs décennies, c'était aussi parce que c'était une manière de faire plaisir un peu à tout le monde, quoi, de pas rentrer dans les problèmes qui fâchent. Ce qu'on disait, on va plutôt ouvrir le marché plutôt que de discuter comment on va harmoniser des politiques. Ou des choses comme ça.
Oui, mais on voit bien, Éric Moimet, vous le soulignez bien dans votre livre, c'est qu'on paye aujourd'hui toute une série de non-dits et de sujets qu'on n'a pas voulu aborder. Et vous dites aujourd'hui, du coup, finalement, l'Europe, c'est pas une fédération d'États, c'est pas non plus un partenariat entre États-nations, et on sait plus très bien comment ça fonctionne, en fait.
Non, ça c'est sûr. Donc déjà, il faut reconnaître que l'Europe, ça sera une entité politique qui ressemble à rien d'autre. Ça ne sera pas un pays, enfin un État-nation au niveau européen, national. Ça sera toujours quelque chose qui est différent des États nationaux. Donc on le paye aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on paye aujourd'hui parce qu'on est dans un peu un flou. C'est-à-dire que, et en même temps, ce flou, il est quand même intéressant et c'est un peu la thèse du livre. C'est que il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis quelques années, notamment dans la réaction au Covid, la guerre en Ukraine, ou choses comme ça, c'est qu'on voit qu'en fait, il y a une remobilisation. C'est-à-dire que dans le livre, on part du plan de relance européen de 2020, où là, pour la première fois, on émet de la dette européenne. Et il y a un plan de relance qui va être vraiment conçu à l'échelle européenne. Et de même, ce que fait ce livre aussi, c'est qu'il réunit de plus en plus des chercheuses et des chercheurs qui pensent à l'échelon européen. Donc en fait, à la fois, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on paye cette illusion du passé, mais à la fois, je pense qu'il est intéressant de voir, et c'est vraiment le but de ce livre, que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose qui est très flou, qui va pas assez vite, qui fait qu'effectivement, vu qu'on est encore dans cette illusion, l'Europe a du mal à se situer entre la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, là, on perd énormément à cause de ça, parce que l'Europe n'est pas encore vraiment une puissance. C'est ce qui est aussi le titre du livre. On dit, est-ce que l'Europe est passée du marché à la puissance publique?
Alors,
non, pas encore. Mais il y a des signes qui commencent à aller. Je peux vous donner un autre exemple, par exemple. Un autre exemple qui, pour moi, est frappant, et c'est lié à la Banque Centrale Européenne dont on parlait tout à l'heure. Pendant le Covid, les États sont vraiment venus au sauvetage des citoyens, des entreprises. On a fait du chômage partiel, on a fait des entreprises et tout ça. Il faut quand même avoir en tête que tous ces plans de relance et de sauvetage pendant le Covid ont été financés par la Banque Centrale Européenne qui a acheté la dette des États. Si on n'avait pas eu l'euro à ce moment-là, on aurait demandé, on a encore sans doute que les banques centrales de chaque État européen auraient peut-être acheté cette dette. Mais si vous vous remettez dans les années 80, qu'est-ce que ça aurait fait? C'est que là, ça aurait fait des batailles de taux de change entre les pays européens, c'est-à-dire que la Banque centrale aurait peut-être acheté la dette, mais ça aurait fait une dévaluation par rapport au Deutsche Mark et tout ça. Des choses dont là, les jeunes qui étaient interviewés tout à l'heure n'ont plus conscience aujourd'hui, et c'est très dingue. Mais je veux dire que vous pensez des générations auparavant, et imaginez un peu ces financements de relance, du plan de relance Covid, qui auraient été de bataille de taux de change entre...
Éric Moimet, justement, pour penser un peu, pour penser l'après, vous souhaitez l'émergence de ce que vous avez appelé justement une puissance publique européenne. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, puissance publique, justement, c'est sortir, c'est pas de faire un État-nation européen. On veut sortir un peu de ce débat qui serait de dire est-ce qu'on va être un État purement fédéral, etc., avec l'idée que c'est comme si l'Europe allait soit être rien du tout, soit un décalque des États-nations. C'est pas comme ça. Je pense que ça ne sera jamais. Mais puissance publique, c'est l'idée qu'en fait, l'Europe déjà se reconnaît, au lieu d'être juste une construction de marché, comme une entité politique qui va effectivement être une puissance, c'est-à-dire à la fois une puissance étrangère, donc avoir une diplomatie commune, être capable de faire d'être un maillon intermédiaire entre la Chine et les États-Unis dans le jeu politique international. Une puissance publique, ça veut aussi dire aussi une puissance économique et financière, y compris d'avoir peut-être une assurance chômage européen, des fonds européens, plus on donne un exemple là, sur la taxation des oligarques russes, parce qu'à un moment on dit il faut faire des sanctions, mais comment est-ce qu'on sait aujourd'hui en Europe qui détient quoi comme richesse et tout ça. Donc pour ça, ça veut dire aussi la construction statistique d'un échelon européen. Les autres exemples, c'est il y a eu des scandales de corruption au Parlement européen récemment, ce qu'on appelait le Qatargate, on s'est rendu compte que des députés avaient été payés par le Qatar. Là encore, tout ça, c'est flou. On se dit, mais comment ça se fait que des choses comme ça puissent arriver au niveau européen? Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, arriver à une puissance publique, sans devenir un État-nation européen, ce qui n'arrivera sans doute jamais, mais c'est au moins que le niveau européen soit plus conscient de ce que c'est qu'être effectivement une entité politique qui est quand même puissante. Qui
alors, Éric Bonnet, là, il y a quand même une difficulté qui persiste. Et qu'on connaît déjà aujourd'hui et qui ne disparaît pas, j'imagine, avec cette puissance publique européenne, ça reste quand même la difficulté de se mettre d'accord à 27.
Tout à fait. Donc ça reste. Et c'est pour ça, en partie, que. Il y a des États, si on pense en Allemagne, il y a aussi des difficultés de se mettre d'accord entre régions. Donc, le désaccord politique, c'est pas quelque chose qui arrive qu'en Europe. Vous avez vu en France le fait de pas avoir de majorité parlementaire. Vous avez vu ce que ça fait dans les débats. Donc, il y a pas qu'en Europe où les questions de désaccord sont fortes dans le jeu politique. Mais il est vrai qu'au niveau des 27, ça pose problème. C'est pour ça que là encore, il faut pas penser que le niveau européen va toujours fonctionner comme un État-nation.
Merci Éric Monnet depuis Berlin. Donc on termine ce tour de table avec Lim Hangnok. Alors Lim, Frédéric Farah l'a dit, Éric Monnet l'a dit. On a un bilan quand même de la construction européenne qui, sur ce qu'il a apporté sur le plan économique, est plutôt positif. Moi, j'ai trouvé des chiffres qui nous disaient qu'en gros, on a un surcroît de prospérité qui découle de la construction européenne qui est de 9 à 12%. Je vous donne ce chiffre qui est quand même frappant. L'Europe coûte 380 euros par an à chaque habitant de l'UE pour un surplus de à peu près 3000 euros. Voilà. Mais la question, on le voit bien, Lim, c'est comment on... devant cette Europe qui patine, comment on passe à l'étape d'après? Et le problème, quand je lis votre livre, c'est que vous dites, finalement, les classes laborieuses comme les classes dominantes ont un intérêt convergent à préserver la souveraineté de leur nation avec l'euro et la paix. Et donc on se dit, mais finalement, est-ce que quelqu'un a vraiment envie d'aller plus loin aujourd'hui?
L'objectif du livre, c'est précisément de partir de ce constat.
Ouais.
Aujourd'hui, ni les habitants de l'Union européenne, ni leurs dirigeants ne souhaitent sortir de l'Union européenne.
Ouais, c'est vrai.
Souhaitent sortir de l'euro.
Ouais.
Mais en même temps, ils sont attachés aux nations. Et l'existence des nations est une donnée incontournable que même les pères fondateurs de l'Europe avaient pris en compte, puisque... la politique dite des petits pas partait de ce constat qu'il n'y a pas, comme vient de le dire Éric Monnet, de nation européenne. La nation européenne n'a jamais existé et elle n'existe pas aujourd'hui dans aucun sens du terme, ni dans l'acception française à la Renan où elle devrait être un plébiscite permanent. Or aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement de plébiscite, notamment avec les noms au traité constitutionnel de 2005.
Une parenthèse, juste parce qu'il y a quand même un avant et un après le traité de 2005, on a l'impression dans le rapport de confiance à l'Europe. C'est-à-dire le fait qu'on soit passé au-delà de la vie des Français pour aller quand même vers cette construction européenne, ça, chez beaucoup de gens, ça a créé une défiance qui perdure encore aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup de gens disent c'est la faute à l'Europe. D'ailleurs, il y a une émission qui s'appelle c'est la faute à l'Europe pour dire que c'est pas la faute à l'Europe. Et c'est la faute à l'Europe dans leur esprit. Mais en vérité, quand on regarde le fonctionnement des institutions européennes, c'est ce que Jacques Delors appelait une fédération d'États-nations. Il y a des aspects supranationaux tels que la monnaie unique, la Commission, la Banque centrale.
Ouais.
Mais l'Europe de Lisbonne elle-même, elle fonctionne avec comme institution qui donne...
Dites-nous l'Europe de Lisbonne, rappelez-nous ce que c'est.
Le traité de Lisbonne,
ouais.
Le traité constitutionnel justement qui a été refourgué par voie parlementaire.
Parce après que le refus de
certains
2005.
Peuples avaient refusé par voie référendaire. Et donc, dans le traité de Lisbonne, l'institution qui donne le ton, c'est le Conseil européen, donc c'est les États. Ce sont les États qui décident. Ce sont les États au nom desquels la Commission agit et propose des textes législatifs qui sont ensuite discutés en codécision entre le Parlement, instance supranationale, et le Conseil de l'Union européenne, instance intergouvernementale. Et puis, les questions les plus sensibles... sécurité, défense, fiscalité, recettes du budget communautaire, reste du ressort des États et ça se décide avec droit de veto.
Mais vous voyez ce que disait Éric Monnet, Lim, c'est que tout l'enjeu, c'est est-ce que finalement, il y a une forme de supranationalité qui peut émerger d'une forme ou d'une autre d'organisation de l'Europe ?
C'est une illusion. En vérité, ce sont les États qui s'entendent au Conseil européen et au Conseil, et ce sont les États au Conseil européen qui mandatent ensuite la Commission pour mettre en place un certain nombre de textes qui sont adoptés en codécision ou pas selon les champs de compétences.
Mais alors concrètement, où doit être la souveraineté aujourd'hui ?
La souveraineté, elle existe, elle est entre les mains des États, et ce sont eux qui se tirent une balle dans le pied lorsque, par exemple, l'Allemagne décide de torpiller la réforme du pacte de stabilité que la Commission avait été mandatée par tous les États de mettre sur pied au moment de la crise Covid, et qui donnait des marges de manœuvre considérables à chacun des États pour organiser sa propre transition écologique, pour mettre en place son propre Inflation Reduction Act, etc., etc. Et les Allemands ont dit non, pas question, on maintient l'orthodoxie budgétaire parce que nous, notre vision de l'Europe, qui est différente de celle d'autres pays, elle doit s'imposer. Et leur vision d'Europe, c'est l'orthodoxie budgétaire et c'est le respect des règles de concurrence.
Alors, pour poser la question autrement, comment tirer parti, finalement, pour se renforcer d'une organisation européenne, sachant qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, finalement, sur une gouvernance commune ou sur même des objectifs communs ?
Ah bah, c'est relativement simple. À partir du moment où on est d'accord pour... avoir un destin commun sur la monnaie, sur la défense, parce qu'on va être obligé de se défendre en commun dans un monde multipolaire. Après, comment, comme dirait le général de Gaulle, faire fonctionner ce machin où la monnaie unique ne permet plus aux économies qui subissent des difficultés de s'ajuster par le taux de change. Parce Donc, il faut ordonner un autre instrument. Et le seul instrument qui existe à l'heure actuelle, s'appelle, entre guillemets, chez les économistes, la dévaluation interne. La dévaluation interne, c'est la baisse des salaires, c'est la baisse des coûts de production, c'est l'austérité budgétaire. Or, ça, c'est un jeu à somme négative, puisque non seulement personne n'y gagne, mais en plus, ça fait de la zone euro la zone où la croissance est la plus faible du monde, où le chômage persiste et où les inégalités s'accroissent. Et c'est ça qui est la véritable cause de la montée des populismes qui s'est instauré. Et donc, l'alternative à ça, c'est de laisser à chaque État les marges de manœuvre budgétaires. Hein, si ils ne peuvent plus utiliser la monnaie, il faut qu'ils puissent utiliser la main visible de la politique budgétaire pour organiser la réindustrialisation verte, engager des aides d'État pour relocaliser les unités de production, etc., etc. Or ça, ça suppose, une réforme du pacte de stabilité, que l'Allemagne a torpillé malheureusement, mais la France n'a rien dit, alors qu'il fallait l'unanimité sur cette question. On aurait pu très bien contredire l'Allemagne sur ce sujet. Et puis, deux, ça suppose une révision des règles qui encadrent les régimes d'aide d'État, qui font par exemple que la SNCF n'a pas eu le droit d'aider sa branche fret pour organiser...
Donc concrètement, vous dites, finalement, c'est chacun chez soi. Si on arrive à faire une Europe des coopérations sur certains grands projets, tant mieux.
Oui.
Puis en fait, ce sera compliqué de faire plus. En fait,
parce que le fond de l'affaire en économie, c'est que l'Europe n'est pas une zone économique intégrée, ce que Mundell appelait une zone monétaire optimale.
Est-ce que le grand marché des capitaux, c'est vraiment le projet phare?
Oui, vous pouvez mettre la mobilité des capitaux. Ouais. Le fait est que l'économie européenne, ce sont des modèles nationaux spécifiques, bien identifiables, et qui sont basés sur des spécialisations nationales, et qui font que les différents pays poursuivent des trajectoires macroéconomiques qui, loin de converger, aujourd'hui divergent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'organiser le développement
Frédéric
de leur modèle.
Frédéric Farah, pour conclure, est-ce que le vrai problème, c'est pas que finalement, on se rend compte que y a de plus en plus de problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre tout seul, que chaque pays n'arrivera pas à résoudre tout seul, mais manifestement, on a de plus en plus l'impression aussi qu'on n'a pas envie de les résoudre ensemble?
La pire des choses, c'est cette situation-là. C'est-à-dire, c'est qu'à la fois, on défait les moyens d'agir au niveau national et on n'en recrée pas d'autres efficaces au niveau européen. Et donc, finalement, ça soit la concurrence des impuissances. Et c'est ça, moi, mon inquiétude. Et tout à l'heure, il y a une crise qu'on évoque, qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, et qui fait aussi pourquoi j'ai écrit ce livre. Il y a une crise démographique qui est quand même massive en Europe. C'est-à-dire, on est dans un hiver démographique. Et pas simplement par rapport au régime de retraite et autres, c'est-à-dire que on est dans une Europe vieillissante, l'Italie, le Portugal, même la France aussi est en train de prendre cette voie-là, et qu'aujourd'hui, quelle place aussi on fait dans une Europe, si on veut, alors que son poids démographique dans le monde ne cesse de se réduire, quelle place on veut donner aussi à la jeunesse, et est-ce qu'on construit des politiques économiques pour elle? Et ça aussi, c'est une question, parce que comment on peut penser l'avenir dans un ensemble qui démographiquement se tasse?
Merci beaucoup à tous les trois. Donc Frédéric Farah, ça s'appelle No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe, c'est aux éditions Fayard. Lim Hangnok, l'Europe ennemie de la République, point d'interrogation, c'est aux éditions PUF, dans la collection Questions républicaines. Éric Monnet, avec Antoine Vaucher, qui copilote tous les deux cet ouvrage collectif qui s'appelle L'Europe du marché à la puissance publique, c'est au PUF également, mais là dans La vie des idées. Et puis je vous cite aussi ce livre que j'ai reçu aujourd'hui, Les 5 travaux d'Europe, une Europe qui nous fera grandir, là encore une réflexion approfondie sur effectivement ce que nous pourrions faire pour peut-être avoir une Europe plus forte et plus prospère. Merci de votre attention. On se retrouve tout de suite, car ça n'est pas fini, pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, notre globetrotteur Penaoud Abdedaïm et sa moisson d'études glanée dans le monde entier, et puis notre bibliothécaire du jour. Ce sera Jean-Marc Daniel, il est multicarte. Il nous parlera du livre de Lionel Stoléru qui est sorti il y a exactement 50 ans, Comment vaincre la pauvreté dans les pays riches. Mais tout de suite, on le retrouve, Jean-Marc Daniel, avec son compère Christian Chavagneux. Christian Chavagneux, donc éditorialiste à alternativeéconomique.fr, l'animateur de la rubrique livre aussi dans Alternatives économiques, le magazine. Et puis Jean-Marc, donc professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on commence avec votre choix, Christian Chavagneux. Le livre de Dana Mattioli, Amazon. Alors, on dit Amazon confidentiel ou Amazon confidential?
Allez, on va dire confidentiel.
C'est chez Grasset.
Ouais, Dana Mattioli, c'est notre consoeur du Wall Street Journal qui suit Amazon au jour le jour, en fait. Et elle en a des choses à raconter sur Amazon. Alors, bien évidemment, au début, elle nous refait l'histoire traditionnelle. Ouais. On vend des bouquins, des disques, tout ça. Vous commandez, Amazon va chercher, puis vous le livrez. Et puis, il y a la fameuse invention du marketplace. Vous pouvez directement venir vendre vos produits. Et là, on a un chiffre qu'on cherche souvent et que je trouve là dans cette enquête, consiste à dire, bon, évidemment, Amazon prend sa com à chaque fois que vous... Mais si vous voulez que la livraison se passe bien, il faut utiliser Amazon Logistics. Si vous voulez que quand on tape un produit quelconque dans la barre de recherche d'Amazon, vous utilisez la régie pub d'Amazon, etc., etc., etc. Quand vous faites la somme, c'est pratiquement la moitié de votre marge qui reste chez Amazon. 45 centimes pour $1 de vente, exactement. Donc, c'est vraiment énorme. Et quand si vous faites un produit un peu sophistiqué sur le plan technologique, tout d'un coup, Amazon va vous appeler en disant « Dites donc, votre fournisseur, c'est qui ? Ah oui, intéressant. Et les caractéristiques techniques de votre produit, c'est quoi ?» Quelques mois après, vous avez un produit identique, produit par Amazon, 30% moins cher, qui mange complètement votre marge. Vous êtes sorti du marché. Encore plus fort, parce que quand vous faites ça, vous devez attendre qu'un produit soit été inventé, mis sur le marché, qu'il se vende bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus haut ? Amazon crée un fonds d'investissement dans les startups. Vous êtes une startup innovante. Vous arrivez chez Amazon en disant « j'ai besoin d'une petite levée de fonds, j'ai là, il m'en manque un peu. Oui, c'est quoi votre produit ? Ah, c'est pas mal, voilà un peu d'argent. Dites-moi, votre stratégie commerciale, ça va être quoi ? Ah, c'est pas mal, voilà un peu d'argent. » Et au moment où le produit est presque prêt, tout d'un coup, plus de réponse aux emails, plus personne ne vous prend au téléphone. Et quelques mois après, vous avez votre produit, mais estampillé Amazon, qui sort. Et tout ça, bien évidemment, est bordé juridiquement. Vous ne pouvez pas du tout attaquer Amazon. Cette enquête, elle est absolument incroyable sur les pratiques de sabotage. Comment est-ce qu'on sabote ses concurrents ? Le capitalisme pour Amazon, ce n'est pas la libre concurrence, c'est comment est-ce qu'on sabote ses concurrents. Tout un chapitre pour nous dire comment est-ce qu'on sabote l'État aussi. Parce que dès le début, ça, alors, bon, on sait qu'Amazon a des pratiques d'optimisation fiscale agressive, mais visiblement, dès le début, nous dit Dana Mathioliv, Bezos a voulu que ce soit un avantage compétitif. On va payer moins d'impôts que les autres. Il faut qu'on ait les meilleurs avocats fiscalistes pour payer moins d'impôts que les autres. Une partie sur le management ultra toxique. 6% des gens doivent être virés tous les ans. 6% des gens. Donc, si vous voulez pas être mis à la porte, il faut dénoncer les camarades en disant celui-là, il travaille moins bien que moi. Parce que si vous le faites pas, les autres vont le faire et c'est vous qui allez prendre la porte. Management hyper toxique de dénonciation des autres et bien évidemment très anti-syndical. Alors, la fin du livre nous dit, Bezos, il voulait pas du tout être dans le marigot politique, Washington, le lobby, tout ça. Puis finalement, avec toutes les contraintes, toutes les critiques qu'a subi Amazon, ici est mis. Donc, on a de longs chapitres pour nous raconter les batailles avec Trump, avec Biden. Et puis, le livre se termine sur cette petite jeune fille qui s'appelle Lina Khan, qui est une étudiante en master et qui fait un gros pavé, sa thèse de master, mémoire de master, dans laquelle elle décrit le comportement abusif d'Amazon et elle dit franchement, il faudrait changer quelque chose. Lina Khan, de petite jeune fille en master, a grandi. Joe Biden l'a nommée à la tête de l'antitrust et Lina Khan a porté plainte contre Amazon en novembre dernier avec un argument très rusé, puisque comme la jurisprudence américaine dit, tant que les consommateurs en profitent et que les prix baissent, on ne peut rien dire, même si c'est une position. Et donc elle dit, comme, que je l'ai dit tout à l'heure, la moitié de la marge s'en va chez Amazon, les fabricants, les vendeurs sont obligés d'augmenter les prix dans les autres endroits où ils vendent.
Effet inflationniste d'Amazon.
Effet inflationniste d'Amazon. Et donc, du coup, on peut l'attaquer pour abus de position dominante. En novembre dernier, la plainte, donc là, ça va prendre des années. Mais en tout cas, le combat est mené et lancé.
Alors, Jean-Marc Daniel, ce Amazon confidentiel.
On a lu beaucoup de livres sur Bezos et sur Amazon, et en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, contrairement
à ce que nous dit
Christian.
C'était la question, c'était qu'est-ce qu'il apporte de plus que les autres.
Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose de nouveau. Alors, effectivement, il y a un portrait qu'on a beaucoup vu à charge de Jeff Bezos, de sa personnalité. On ne nous dit pas qu'il a fait pleurer sa grand-mère dans celui-là, mais on nous dit que c'est ce qui manque par rapport aux autres. Mais donc, ce personnage, quand il dit, effectivement, à la fin, il s'investit dans la politique, mais il y a une interview de la représentante ou de la sénatrice, je ne sais pas, de l'État de Washington, qui est dans la zone, enfin qui est élue par la zone où se trouve l'essentiel du siège social d'Amazon, et elle dit, mais j'essaie de le joindre, il ne s'intéresse pas à moi, il est totalement autiste vis-à-vis de moi, il s'intéresse à des gens de façon très très particulière, il n'a aucun sens des relations humaines, aucun sens du contact. De même, sur les gens qui sont effectivement susceptibles d'être sur le turnover, il annonce le turnover. D'ailleurs, même, j'avais cru que c'était 10%,
oui,
pas 6%.
Ça a été baissé à 6%.
Oui,
après.
Oui, mais ça a commencé à 10%. Oui, ça a commencé à 10%. Donc c'était bon. Et donc, effectivement, tout ça, on l'a trouvé par ailleurs. Ce qu'il y a d'intéressant dans le livre, c'est que le fil conducteur, c'est effectivement la jeune étudiante qui est devenue responsable de la FTC, qui n'apparaît pas qu'à la fin, elle apparaît aussi au tout début. Elle apparaît dans la préface. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs c'est peut-être le portrait le plus intéressant, le personnage qui est décrit de façon la plus émouvante, ce personnage. Et à la fin, on est 4 ans après sa nomination, et on nous dit dans le livre que ça va être assez long encore. Hein. Elle commence juste son action contre Amazon, et que vu la quantité de juristes qu'il y a derrière Amazon, qu'il y a derrière Jeff Bezos, ça va prendre un temps incroyable. Et donc, le livre est plutôt une espèce de réquisitoire dans ce procès d'Amazon devant les autorités de la concurrence, avec le fait que de toute façon, tout ça est un peu vain. Et donc, je suis un peu resté sur ma faim. Encore une fois, on apprend des détails, il y a 500 pages. Donc,
préciser, Jean-Marc, sachant que Dana Mattioli et le Wall Street Journal sont pas des brûlots anticapitalistes.
Ah non.
Voilà, non, mais parce que ça pourrait être aussi.
D'ailleurs, à la fois la traduction est bien faite.
On n'est pas en France, quoi. Voyez.
Voilà, la traduction est bien faite. Moi, qui suis assez sévère sur les traductions, et à plusieurs reprises, par exemple, elle décrit ces processus dans lesquels il fait baisser les prix, elle dit mais l'objectif de vouloir favoriser le client est un objectif louable en soi. D'ailleurs, c'est un des discours que tient régulièrement Jacques Bezos. Il dit la priorité de l'entreprise, c'est le client, c'est pas vous, c'est le client. Et elle dit en soi, c'est un objectif que nous devrions tous partager. C'est la méthode pour atteindre ça qui nous paraît contestable, enfin qui me paraît contestable, dit-elle, alors que, encore une fois, il y a des formes d'indignation qui sont un peu artificielles et il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés.
Allez, on passe à votre choix, Jean-Marc, autour d'un thème d'actualité, le surtourisme. C'est le livre de Lynn Allen, ça s'appelle Voyage au pays du surtourisme, c'est aux éditions de l'Aube.
Oui, alors c'est un sujet qui est certes d'actualité, mais qui est assez peu traité, cette économie du tourisme, et le livre en plus commence par une assez longue préface de Jean Viard qui fait pratiquement un cinquième voire un quart du livre.
Alors Jean Viard, sociologue, de nos comportements, de nos habitudes.
Voilà,
de
oui,
nos,
c'est un sociologue. Bon, la thèse du livre, c'est qu'effectivement, on assiste à une forme de surtourisme. Il y a des endroits qui sont fréquentés de façon excessive. Alors tout le monde a en tête Venise, mais il y a dans le livre d'autres exemples. Et donc, ce que disent les deux auteurs, donc d'abord Jean Viard et ensuite Linda Lenné, c'est qu'il faut face à ça avoir une véritable politique du tourisme. On peut pas se contenter de vouloir d'abord limiter, restreindre le tourisme. C'est un enjeu économique. Il rappelle qu'en France, par exemple, c'est 8% du PIB, que on peut utiliser les moyens modernes pour réguler les flux sans les contraindre. On peut réorienter par l'éducation l'activité touristique. Donc, il rappelle que aller randonner dans le Tarn ou dans l'Aube, c'est tout à fait louable. On n'est pas obligé de systématiquement se précipiter sur la Tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel. Il rappelle qu'effectivement, on pourrait ouvrir plus les musées, on pourrait limiter l'accès, mais sur des bases d'utilisation numérique à certains lieux. Dans le livre, il y a une comparaison que je trouve assez intéressante. Ils disent quels sont les deux endroits où il y a le plus grande densité d'hommes. Ce sont les plages et les cimetières. C'est là qu'il y a le plus d'hommes au mètre carré. Bon, et donc sur les cimetières, l'auteur dit c'est pas forcément un enjeu immédiat sur les plages. Et donc elle prend l'exemple d'une politique qui a été mise en place aux Philippines, qui a consisté effectivement à limiter l'accès aux plages sans l'interdire. Donc j'ai trouvé le livre encore une fois assez original, assez bien écrit, assez intéressant, et le texte de Jean Viard est, à mon avis, alors l'auteur est journaliste. Elle présente les choses. Ouais. Et j'en viens à une vraie réflexion que j'ai trouvée méritant d'être prolongée, étudiée et regardée de près.
Christian,
Le livre commence par un chiffre absolument impressionnant. Dans les années 50, 25 millions de touristes étrangers, aujourd'hui 1,5 milliard. Donc vous dites, waouh, et c'est que les touristes étrangers, sans même compter le tourisme en interne. Et donc le livre pose bien le débat. Est-ce qu'il faut, enfin comment on fait ? Il y a des endroits où il y a du surtourisme, et il faut trouver un équilibre entre les touristes qui veulent y aller, la nature qui est complètement dégradée quand vous avez autant de gens qui arrivent à un endroit, et en même temps une économie locale qui vit du tourisme. Donc, et puis des habitants qui sont un peu perturbés ou qui en profitent, soit l'un soit l'autre. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça. Et le bouquin, en fait, va passer d'un exemple à un autre. C'est pas un grand bouquin analytique, c'est une succession d'exemples de, bah là, on l'a fait comment, en France, au Mont-Saint-Michel, dans les studios Harry Potter en Angleterre, à Venise, etc. On va un petit peu partout.
À Barcelone.
Et le bouquin hésite toujours. Alors, ils ont fait ça pour contraindre. Oui, mais contraindre, c'est pas bien. Oui, mais faut quand même contraindre. Oui, mais faut pas trop contraindre. Alors, à chaque fois, on se demande, bon, là, il faut le faire ou il faut pas le faire. Bon, à chacun de faire, au lecteur, à lectrice, aux lectrices de faire ses choix. De toute façon, il y a que deux façons de faire. C'est soit par le prix, soit par le volume.
Absolument.
Donc, par le prix, c'est les studios Harry Potter. L'été, c'est pratiquement 30% plus cher. Donc vous dites, ok, bah il faut pas y aller l'été, sauf que c'est l'été, vous êtes en vacances, vous avez envie d'y aller. Donc là, il y a une discrimination par le prix, il y a que les plus riches qui vont pouvoir y aller. Donc ça marche pas très bien. C'est pour ça que pratiquement l'ensemble de tous les autres exemples qu'elle donne, c'est de la régulation par le volume. Alors on peut faire, aux plages de Calanque, certaines Calanques à Marseille, il y a des quotas. Voilà, il y aura plus de X personnes aujourd'hui qui vont y aller plutôt que X milliers, juste X centaines.
Le Machu Picchu, l'Alhambra de Grenade.
Et ça marche plutôt bien. Elle dit oui, ça remet en cause les libertés, mais pas tant que ça. Les gens, quand vous leur demandez, ça va. Vous avez le principe de la jauge. Vous avez beaucoup d'endroits dans le monde quand vous voulez visiter. Il faut aller sur Internet. non seulement il faut réserver sa place à l'avance, mais il faut dire, j'arrive entre 8h et 9h ou entre 9h et 10h. Le principe de la jauge, c'est plutôt bien accepté aussi. Airbnb, parce que quand vous avez tous ces déplacements de touristes, il faut bien que les gens y logent quelque part. Ouais. Et donc là, elle dit, Barcelone, c'est pas mal. Ils ont limité les meublés touristiques style Airbnb, mais uniquement dans les zones de tension en logement. Pour les autres, ils sont plutôt relâchés, mais les zones de tension, on a plutôt... Et elle finit en disant, bon, peut-être que moi, je crois au tourisme solidaire, c'est-à-dire vous arrivez dans votre lieu touristique et vous nettoyez la nature, donc vous la laissez dans l'endroit que vous l'avez trouvé. Le tourisme réparateur, dit-elle, vous laissez la nature dans un meilleur état que ce que vous avez trouvé. Sinon, l'alternative finale, c'est la réalité virtuelle. Donc évidemment, se balader dans les rues de Rome, vous se baladez avec un casque dans les rues de Rome, ouais. C'est pas pareil, mais si vous allez voir le plafond de la chapelle Sixtine, vous voyez rien. Par contre, avec un casque de réalité virtuelle, vous montez au plafond, vous pouvez voir tous les détails. Il y a des avantages et des inconvénients, mais je pense que c'est pas la solution qu'elle va privilégier.
Eh ben, c'était parfait. Je rappelle vos deux livres, donc celui de Linda Lenné, Voyage au pays du surtourisme aux éditions de l'Aube, et puis le Dana Mattioli, Amazon confidentiel. Chez Grasset. Allez, c'est l'heure de notre séquence. Et ben, on reste avec Jean-Marc Daniel pour notre livre d'hier.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et c'est Jean-Marc Daniel qui, décidément, revêt les unes après les autres toutes les casquettes dans cette émission. Aujourd'hui, c'est lui, notre bibliothécaire. Et Jean-Marc, il aime bien les anniversaires. Et donc, il a choisi de célébrer le 50e anniversaire du livre, de la sortie du livre de Lionel Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Jean-Marc.
Oui, exactement. C'est au printemps 1974 que le livre a été annoncé. Il y a eu des extraits dans les journaux, et dans des revues scientifiques. Et le livre est paru sous forme donc de livre à la disposition du public début octobre 1974. Alors, il faut voir qui était Lionel Stoléru. Donc, Lionel Stoléru était le conseiller de Valéry Giscard d'Estaing sur le plan économique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on attendait le livre avec impatience, puisque Valéry Giscard d'Estaing venait d'être élu, il a été élu il y a 50 ans, le 19 mai 1974. Donc Lionel Stoléru, sur le plan politique, était au centre-gauche. D'ailleurs, il a été ensuite ministre d'ouverture dans le gouvernement Rocard après 1988. Oui. Donc il se situait centre-gauche, dans la ligne du Giscard qui se voulait libéral avancé. Donc,
entre Jacques Delors et Raymond Barre, on va dire.
Exactement, voilà. Exactement. Donc sur le plan intellectuel, Lionel Stoléru a fait lire ensuite le corps des mines, ensuite elle fait PhD avec Kone Saro, et donc il était très influencé par les travaux d'Aro sur le marché, sur est-ce que le marché conduit à un équilibre juste. Et à partir de sa thèse, il a publié donc un certain nombre de textes, et puis il a réagi au texte de Friedman sur la liberté, capitalisme et liberté, dans lequel Friedman défend l'idée que la sécurité sociale est devenue une bureaucratie invivable, que les démocrates ont transformé la solidarité en une nouvelle rente de situation pour une palanquée de fonctionnaires, et donc il faut au contraire instituer un système de transfert de fonds vers les plus pauvres au travers de ce qu'il appelle un impôt négatif. Et donc, dans Vaincre la pauvreté dans les pays riches, Stoléru se fait l'avocat de l'impôt négatif. Alors, le livre est d'ailleurs pas immédiatement du succès. Il va avoir du succès en 1977 à partir de sa version en poche qui est dans la collection Champ Flammarion, qui est encore celle qu'on trouve dans les... on la trouve même chez certains libraires encore, car c'est un livre qui continue à vivre. Et le livre est en trois parties. Une première partie où il explique que la notion de pauvreté est une notion d'abord relative. On se définit de comme étant pauvre par rapport à quelqu'un d'autre, et non pas par rapport... Et il dit une notion immédiate, c'est-à-dire on regarde assez peu la situation de ses parents, de ses grands-parents, on vit sa pauvreté par rapport à ses voisins. La deuxième chose, il dit, c'est que cette pauvreté, si on la confie à la gestion à l'État, assez vite, ça va devenir absolument bureaucratique. Il va y avoir tout un tas de critères qui vont être mis en avant. Donc, le plus simple, c'est donc sa conclusion, c'est de mettre en place ce qu'il appelle un impôt négatif, suivant la logique de Friedman. On donne une certaine somme à tous les ménages et on garde la gestion simplement d'une assurance santé et de l'éducation. mais tout le reste, tous les transferts sociaux qui existaient déjà sont divisés par le nombre de ménages. On les donne à ces ménages sous forme de forfait. Et ensuite, on maintient un impôt sur le revenu progressif. Donc, les plus pauvres ne paient pas d'impôt sur le revenu. Ouais. Donc, ils ont la somme qui arrive. Et puis, progressivement, au fur et à mesure qu'on monte dans on vous reprend et à la fin, vous êtes débiteur. C'est-à-dire, vous devez de l'argent à l'État. Et à la fin, on a comme ça réduit les inégalités et surtout assuré aux gens un minimum pour vivre dans la société moderne.
Il aura fallu du temps avant que ça infuse en France, hein, puisque ça a d'abord marché aux États-Unis. Eh ben merci Jean-Marc de nous avoir parlé de Lionel Stoléru. C'est Benaouda Abdennaïd maintenant, notre globetrotter pour le monde de 2024. Et ça commence en Allemagne, vous allez voir.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Benaouda Abdennaïd. Alors, on commence, comme on l'a dit, notre tour du monde par une étude de la jeunesse allemande.
Oui, cette étude régulière est très commentée actuellement en Allemagne. Elle est fondée sur une enquête menée par l'Institut Allensbach auprès d'échantillons représentatifs d'une jeunesse allemande entre 14 et 29 ans. Simon Schnetzer, qui est un économiste très écouté du secteur privé allemand, travaille sur les questions de génération. Et il a travaillé là avec deux collègues universitaires pour brosser, en quelque sorte, le tableau de tout un pessimisme allemand en devenir. Depuis que la crise pandémique a été surmontée, écrivent-ils, cette jeunesse allemande exprime une préoccupation grandissante quant à la prospérité de leur pays et donc en leur propre avenir. À un sentiment croissant d'épuisement, de stress psychologique, s'ajoute peu à peu celui de l'impuissance. Les auteurs expliquent que puisqu'ils intègrent que la situation économique nationale va se détériorer, c'est la perspective d'une vie agréable, douce, je cite, qui s'amenuise. Parmi les griefs de ces jeunes Allemands à l'encontre de leurs aînés, il n'y a pas que la hausse des prix courants et la cherté du logement. L'accent est également mis sur un déficit flagrant, je cite, de numérisation, autant dans le secteur éducatif que dans l'ensemble des secteurs industriels et commerciaux, ce qui, dans ce raisonnement, ne les prépare pas suffisamment au monde du travail. Et pourtant, les jeunes diplômés ou ceux bien formés, lorsqu'on les interroge un à un, restent tout à fait persuadés que leurs propres perspectives de l'emploi sont bonnes, voire très bonnes. Simon Schnetzer et ses collègues constatent aussi qu'une quasi-majorité des personnes interrogées croient en leur responsabilité à venir dans la prospérité de l'Allemagne, mais en fonction de leur approche générationnelle de leur propre méthode de travail. Autre point très instructif à signaler, comment cette insatisfaction est en train d'entraîner un net virage politique à droite, tout en excluant massivement que l'Allemagne se porterait mieux sans l'Union européenne. Donc une série de contradictions dans cette étude.
Allez, cap au nord ensuite, Benaouda, avec cette étude sur les activités minières dans le plateau continental norvégien.
Oui, en début d'année, le Parlement norvégien a voté une législation tout à fait exceptionnel, une très large majorité, approuvant l'exploitation des minerais nichés dans les fonds marins. Oslo n'a rien voulu entendre, et cela fait 4 ans que ça dure, des objections extérieures. La prospection en eau profonde, il faut le voir, ça va pouvoir s'étendre sur une surface équivalente aux 3/4 pratiquement de la superficie terrestre du pays scandinave. La DNP, qui est la toute puissante direction nationale du pétrole, évalue par exemple à 38 millions de tonnes les quantités de cuivre qu'il y a là. Alors 38 millions de tonnes, c'est ce qui ferait la totalité des volumes extraits dans le monde durant 2 années. La chercheuse Ida Soltvedt Innvinden et son collègue Andreas Ostergen de l'Institut norvégien FNI effectuent donc à leur tour un travail d'évaluation. Est-ce que le pays a vraiment le droit d'engager de telles activités minières marines à caractère commercial? Ils discutent d'abord de l'interprétation du traité du Svalbard de 1920 qui a reconnu la souveraineté de la Norvège sur cet archipel situé à 1 millier de kilomètres du pôle Nord. Les zones maritimes alentour deviennent exploitables en vertu de cette loi de 2024, cette loi minière. L'Union européenne considère qu'il y a potentiellement des conséquences environnementales de trop grande importance. Les pêcheries russes, pour leur part, saisissent le pouvoir central à Moscou pour faire valoir que l'industrie minière va détériorer la zone et donc leur travail. Et c'est ainsi la possibilité que surgisse une remise en cause généralisée des droits norvégiens sur les ressources du plateau continental qui entoure le Svalbard, parce que le traité garantit aussi aux autres signataires du traité, ils sont 41, il y en a en Afrique du Sud, Argentine, enfin à travers l'ensemble du monde, à pouvoir exploiter eux aussi leurs ressources, si un jour ça leur prenait l'envie. Seule la Norvège et la Russie ont utilisé cette disposition pour extraire du charbon. Les auteurs envisagent donc qu'une ligne de départ ait été maintenant tracée par Oslo pour une exploration minière des fonds marins dans laquelle vont se positionner d'autres États du monde.
Et on termine notre tour du monde hebdomadaire par l'Argentine, Benahouda, où les Chinois ont de grands projets d'infrastructures.
Oui, un projet chinois d'infrastructures et accaparement des terres, c'est le titre. En juin, l'Argentine va voir expirer un accord de swap qui lui a permis de procéder à un échange de devises à hauteur de 6 milliards de dollars. Le quotidien le plus lu du pays, Clarín, évoque une course contre la montre. Le président libertarien, élu l'an dernier, s'était engagé à ne plus faire d'affaires avec les pays communistes. Alors, est-ce que ça signifie donc qu'il va rembourser les communistes et comment? Quoi qu'il en soit, dernière nouvelle, Buenos Aires est quand même supposé adresser une demande formelle dans les jours qui viennent à la Banque centrale chinoise pour réclamer un délai. Pékin attend pour sa part un geste très précis, que ce gouvernement valide bon gré mal gré la construction chinoise de deux barrages hydroélectriques en Patagonie. Alors donc, on en revient, quel que soit le pouvoir, quel que soit le discours à Buenos Aires, à un déséquilibre structurel dans cette relation. C'est tout le sens de ce qu'écrit ici cette chercheuse argentine dans une publication académique du Costa Rica, Sol Yamila Mora, aux antipodes politiquement du président Milei, a rédigé sa thèse de doctorat sur ses investissements chinois en infrastructure dans son pays. Elle en étudie depuis toute l'influence sur le foncier argentin. Selon son analyse, il y a bien un phénomène d'accaparement des terres dans le cadre de ces projets chinois, rendu possible par la gouvernance argentine, mécanisme direct, indirect, consensuel, coercitif, certes, mais pour cette chercheuse, ça ne relève pas d'une simple décision des entreprises chinoises, mais c'est d'abord et avant tout du soutien et de l'intervention active des autorités locales argentines, quelle que soit leur couleur politique. Ça ne disparaît donc pas avec une élection présidentielle.
Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Allez, Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Eh bien, comme l'émission est consacrée à l'Europe, j'ai décidé de mettre en avant le dernier rapport de la Fondation Schuman.
Oui.
Le 18e, il y a un rapport sur l'état de l'Union qui vient de paraître. Donc, c'est le 18e exemplaire, le 18e dans la séquence. Et alors, il est autour de trois thèmes importants. Le premier, c'est il faut arrêter l'Europe bashing. Ça va pas si mal que ça. Le deuxième, c'est une espèce de prospective de ce que pourront être les conséquences de l'élection vers laquelle nous allons, l'élection européenne. Donc, ils essaient de voir, indépendamment des résultats définitifs, quel va être l'avenir de l'Europe après ces élections. Et puis, le troisième, c'est de s'inquiéter sur la montée des populismes. Est-ce que cette montée des populismes est momentanée ou est-ce qu'il y a une vague de fond qui va submerger un peu l'Europe et remettre en cause l'Europe? Donc, c'est toujours pareil. Des articles de qualité, un militantisme pro-européen et des données chiffrées à la fin qui sont extrêmement utiles pour tous les gens qui s'intéressent à l'Europe.
Moi, j'avoue que l'argument du « ça va pas si mal », c'est quand même un argument extrêmement agaçant. Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui.
Contesté Parcoursup, un livre écrit par une sociologue et une juriste. Il y a de plus en plus de lycéens qui disent c'est pas normal ce qui se passe, donc je conteste. Alors évidemment, comme disent les deux autrices, il faut avoir du capital juridique pour pouvoir passer du sentiment d'injustice à un litige. Elle montre que se développent des avocats, une petite niche, des avocats spécialisés dans la contestation des résultats de Parcoursup. Et on s'aperçoit à ce moment-là que la loi de Parcoursup est un petit peu souvent bancal. Et donc, c'est au juge, en fait, administratif, de dire à la fin comment est-ce qu'on doit interpréter telle ligne de Parcoursup. Et bon, il n'y a pas que pour Parcoursup que c'est le juge doit préciser les attendus de la loi. Donc, belle petite étude, enquête sérieuse.
Mais ça aboutit dans certains cas.
Bien sûr, d'une sociologue et d'une juriste.
Et alors, question, parce qu'il y a un problème de délai, quoi. C'est-à-dire que le temps que le jugement soit rendu.
Eh ben, vous lirez le livre et puis vous verrez.
Ah, bah, passionnant. Passionnant. Bah, écoutez, moi, allez, un petit clin d'œil avec un livre qui s'appelle Business Class, mais classe avec un C'est la question, avez-vous les codes pour réussir dans le monde professionnel? Et donc, c'est un petit guide du savoir-vivre et du savoir-être professionnel. Et donc, ce livre vous dresse la liste de toutes les bonnes pratiques et de toutes les bonnes manières qu'il convient d'intégrer pour cultiver son élégance professionnelle, Jean-Marc. Hein, voilà.
J'espère que ce livre est au programme des concours d'entrée aux écoles de commerce.
Oui, bah en tout cas, ou pour après.
Au programme des concours de sortie des écoles
voilà.
de commerce.
Comment se distinguer par ses compétences relationnelles et sa bonne éducation. C'est Hervé Baumelard et Anne de Marizy qui signent ce livre publié chez Dunod. C'est instructif et divertissant. À la fois, tout ce qu'on aime, quoi. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.